Troisième partie donc de cette émission Quoi de Neuf, eh bien elle va nous entraîner un peu dans la science, un peu dans l'agriculture et un peu dans l'analyse, un petit peu de l'actualité chaude d'une certaine manière, prévisible d'une autre aussi. Voilà, j'ai le grand plaisir d'accueillir donc Maud Roblin, qui est ingénieure d'études et responsable de l'équipe gestion des territoires ruraux et des espaces urbains à Junia. Junia qui est une école, on va dire composite, mais maintenant qui est une entité.
Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc oui, Junia, grande école d'ingénieurs qui réunit les trois diplômes des fois un peu plus connus de l'ISA, l'ISEN et HEI. Et donc aujourd'hui, concernant l'actualité, on parlera peut-être plus des domaines ISA, donc domaines agriculture, agroalimentaire et environnement notamment.
Alors, chacun l'a remarqué, il suffit peut-être de prendre la route pour avoir un petit blocage. On est en pleine effervescence et avec des problèmes qui se révèlent au grand public, mais on peut dire qu'ils étaient annoncés.
On peut dire effectivement qu'ils étaient prévisibles. C'est vrai qu'on voit une colère gronder dans un peu tous les pays d'Europe et bien avant la France d'ailleurs. Donc effectivement, on peut dire que c'était prévisible dans ce sens-là. Et même en France, ça fait quand même de nombreuses années que les agriculteurs sont en difficulté.
Donc ces difficultés, eh bien, elles existaient déjà au préalable, mais elles se sont peut-être amplifiées à cause, on peut dire, de réglementation et peut-être de nécessité écologique.
Oui, effectivement, il y a plusieurs sujets et depuis plusieurs années, la transition agroécologique, j'ai envie de dire, il faut y aller, on n'a pas le choix, mais aujourd'hui on voit que les agriculteurs peut-être manquent d'un vrai accompagnement, que les soutiens financiers ne sont pas suffisants. Et qu'on les met face à des obligations. On voit des molécules, par exemple, de produits phytosanitaires qui disparaissent sans qu'en face, on ait mis les moyens peut-être dans la recherche et dans l'accompagnement pour proposer des solutions aussi rapides et qui soient aussi accessibles économiquement. Je donne un exemple, des solutions de biocontrôle, c'est utiliser des molécules naturelles à la place des pesticides. Et en fait, ces solutions-là, aujourd'hui, techniquement, elles existent, mais elles restent très très chères et encore assez peu accessibles pour les agriculteurs.
Donc aujourd'hui, on voit quelque chose qui est un peu inédit par rapport aux manifestations paysannes qui ont déjà existé auparavant, c'est des blindés contre des tracteurs. Alors, est-ce que le règlement, on va dire, écologique des problèmes de la société et du monde va passer par une période d'autoritarisme, sinon de dictature?
C'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si ma réponse va convenir, mais Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les agriculteurs ont une sorte de passe-droit, quand même, que n'ont pas d'autres mouvements sociaux. Je cite Gérald Darmanin qui disait en gros, on va laisser faire parce que c'est les agriculteurs. Donc, est-ce que on aurait laissé faire comme ça quand il y a eu des grèves pour la réforme des retraites, etc. C'est pas vraiment ce qu'on a vu. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est en souffrance. Et elle utilise les moyens qu'elle a. Peut-être qu'elle a essayé d'avertir, elle a essayé de discuter, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, aujourd'hui, elle en est à bloquer les autoroutes, elle en est à se montrer vraiment de manière très vive.
Donc l'agriculture, c'est un tout, mais les agriculteurs, on peut dire qu'il y a différentes, entre guillemets, classes et classes sociales d'agriculteurs.
Tout à fait. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention quand on parle de la couleur et du mouvement actuel. On dit les agriculteurs, mais vous avez raison, il y a plusieurs agriculteurs. On a d'un côté, on va dire, des gros céréaliers qui vont avoir des productions orientées vers l'export. Et puis à côté de ça, on va avoir des éleveurs, on va avoir des viticulteurs, on a des producteurs de fruits et légumes. Et en fait, ce qui est un peu inédit, c'est qu'en fait, dans cette crise agricole, tous les agriculteurs sont en colère. Il n'y a pas une frange des agriculteurs, que ce soit, on va dire, des petits ou des gros, qui ne sont pas en colère. Donc là où est l'enjeu, c'est que le gouvernement français, on va dire l'Europe aussi va devoir apporter des réponses adaptées à tous les agriculteurs. Et c'est aujourd'hui, on voit qu'il y a des réponses qui ont été apportées, qui ont satisfait une partie des agriculteurs, mais pas tous. Donc voilà, il y a besoin de discuter avec tous les agriculteurs.
Alors c'est vrai que l'agriculture, on peut dire d'une certaine manière, c'est aussi une force, un lobby. Hein, et donc, en tant que lobby, il pèse aussi sur les décisions, ou au moins les projets de décision. Là, on est à des annonces qui ont été faites. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas satisfaisantes pour tout le monde. Et que... Est-ce qu'il y a encore d'ailleurs du grain à moudre dans l'agriculture ?
Il y a encore tellement, tellement de choses à faire. On parlait effectivement de transition agroécologique et on voit qu'on n'y est pas encore. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour les agriculteurs, pour les emmener, pour les accompagner. Il y a une chose que je voulais évoquer et qui est très importante pour moi, c'est le partage du risque. Parce qu'en fait, les agriculteurs, pour aller dans cette transition agroécologique, il faut qu'ils prennent des risques. Ils vont prendre certainement le risque de perdre en rendement. Donc, on va prendre le risque de perdre en volume, d'approvisionnement, etc. Et pour moi, ce n'est pas aux agriculteurs de supporter ce risque-là uniquement, mais c'est à tous les acteurs de la filière, donc les coopératives, les industriels, les distributeurs. Et c'était un peu le sens de la loi Egalim, donc des lois Egalim qui visent à rééquilibrer les négociations commerciales et qui aujourd'hui n'ont pas vraiment été respectées. Donc en fait, ce risque-là, il faut qu'il soit partagé entre tous les acteurs de la filière. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'elle soit respectée et que ceux qui ne jouent pas le jeu soient sanctionnés.
Alors, c'est vrai que ceux qui ont un capital important, voire les sociétés agricoles, hein, pas seulement les petits agriculteurs ou les moyens agriculteurs, ils ont possibilité, sans doute, de risquer davantage, puisqu'ils ont une masse financière qu'ils peuvent mobiliser avec, bien sûr, des aléas parfois, mais globalement, ils ont quand même quelques idées de stratégie par rapport à l'économie de leur agriculture.
Oui, tout à fait. C'est sûr que les exploitations qui ont le plus de capital sont celles qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, qui sont dans des stratégies très globalisées et ça ressemble pas du tout à la réalité des petits agriculteurs, on va dire, qui subissent, eux, cette loi du marché, cette volatilité des prix, cette concurrence déloyale de la part des produits qui viennent de l'étranger, par exemple.
On peut, bien sûr, par rapport à ces agriculteurs, j'allais dire, qui sont au bout du bout, c'est-à-dire sur le terrain et avec les problèmes qui les terrassent d'une certaine manière. Certains se suicident, donc ce sont vraiment des drames de société pour les familles, pour eux, bien sûr, et aussi, d'une manière générale, pour les équilibres humains dans une société agricole.
Oui, alors c'est un point très intéressant que vous soulignez, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, parce qu'en agriculture, on parle souvent beaucoup de techniques, on manque de solutions face au réchauffement climatique, de molécules qui disparaissent, de choses comme ça. Il est vrai qu'on a besoin de continuer à avancer, notamment grâce à la recherche, dans la recherche et le fait de trouver des solutions techniques, mais il faut aussi travailler sur les freins psychosociaux parce qu'en fait, les agriculteurs aujourd'hui, ils sont très attachés à un modèle qui est né dans les années 60, hein, qui était autour de la mécanisation, les semences, la chimie. Et en fait, ils sont toujours habitués et attachés à ce modèle-là. Et finalement, c'est pas tellement la technique qui manque, mais c'est le fait de vouloir y aller, de vouloir changer, malgré la pression parfois du voisinage, malgré la pression des générations, parce que parfois il y a des agriculteurs qui ont repris l'exploitation de leurs arrière-grands-parents, puis leurs grands-parents, puis leurs parents, et on leur dit « oui, mais on a toujours fait comme ça et ça a toujours marché, donc pourquoi toi tu changerais ?» Et donc c'est très difficile pour les agriculteurs de se lancer, même s'ils veulent. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement des collectifs d'agriculteurs, parce que c'est beaucoup plus facile de changer à plusieurs que de changer tout seul.
Alors, au-delà des considérations, on va dire, de l'industrie chimique, des engrais, des améliorations possibles, des rendements, hein, on pourrait parler aussi d'une contrainte qui est nouvelle, c'est avec la guerre notamment, la flambée des prix de l'électricité, des carburants, etc., qui rajoute une deuxième couche à des problèmes déjà assez énormes, voire insurmontables. On ne parle pas beaucoup des effets induits de cette guerre, des mesures, des sanctions et des absences d'approvisionnement dans certaines matières, on va dire, mais on se rend bien compte que l'ensemble est explosif, si on peut dire.
Oui, c'est ça. Bah, aujourd'hui, de toute façon, l'agriculture, c'est un sujet et c'est un secteur qui est globalisé, hein. On est sur un marché mondial, on travaille dans des règles de libre-échange. Alors, au niveau de l'Europe et grâce à la PAC, on a quand même essayé de sécuriser un certain nombre de choses, puisque la PAC, je rappelle que c'est quand même une politique qui visait, au sortir de la guerre, à sécuriser des approvisionnements, à assurer aussi des prix abordables pour les consommateurs. Donc on a quand même cette chance-là, mais on voit finalement aujourd'hui que c'est peut-être plus suffisant. Il faut que la PAC, elle se renouvelle aussi. Et il faut que les pays réfléchissent. Alors, bon, je parle plutôt pour la France, à comment développer des stratégies plus locales, plus territoriales. L'État a un vrai rôle à jouer en termes de services publics en proposant des filières, en aidant à structurer des filières locales, des débouchés qui soient stables et rémunérateurs, en permettant l'approvisionnement, par exemple, des cantines scolaires, de tout ce qui est la restauration hors domicile. Voilà, il y a beaucoup de débouchés. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des politiques alimentaires territoriales qui soient en adéquation avec les politiques agricoles. Et ça, ce n'est pas facile dans le monde actuel.
Alors, c'est vrai qu'on est actuellement dans une troisième... Enfin, je ne sais pas si c'est la troisième révolution industrielle. Est-ce que dans le domaine de l'agriculture, on est aussi en phase avec cette révolution? Et par exemple, moi, j'ai connu l'après-guerre, hein, j'allais dire pratiquement l'après-guerre, après-guerre, hein, où là, il fallait relancer l'économie, donner à manger aux gens, mettre de l'engrais partout. On ne se préoccupe pas trop de la qualité exacte, mais enfin, on mangeait bien. Hein, moi, j'ai ce plaisir-là, quand même, que j'ai préservé un peu. Quand même.
On mange toujours bien.
On mange toujours bien en France aussi. Est-ce que, justement, maintenant qu'il y a d'autres perspectives, d'autres contraintes, d'être raisonnable, de consommer, mais aussi de cultiver raisonnablement, est-ce que c'est une révolution dans les esprits, dans les mentalités, et aussi un accompagnement qui n'est pas suffisant actuellement? Est-ce qu'il y a des propositions?
Alors, du côté, j'allais dire, de la production, on peut dire qu'on est dans une troisième révolution, dans le sens où on va... Alors, ce triptyque que j'évoquais, mécanisation, semences, chimie, voilà, il se transforme. Hein, la mécanisation, aujourd'hui, ça va être plutôt d'aider les agriculteurs à se doter d'outils d'aide à la décision pour prévoir un peu plus les événements climatiques, pour mieux piloter l'irrigation, mieux piloter la fertilisation. Voilà, donc c'est une autre manière de se robotiser, on va dire, intelligemment pour essayer de moins utiliser de pesticides, moins utiliser d'eau. Donc on travaille aussi sur les variétés, on travaille sur des nouvelles cultures, des choses comme ça. Donc du côté de la production, on peut parler effectivement d'une troisième révolution. Et du côté de la consommation, alors effectivement, je pense à des choses comme tous les labels qu'on voit apparaître, tous ces étiquetages qui visent à apporter plus de transparence, qui sont parfois un peu confus, parce qu'on voit beaucoup d'étiquetages, mais il y a quand même une volonté, voilà, de mieux communiquer sur comment on produit et de permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés.
Alors, ces consommateurs, pour certains, on va citer par exemple les écologistes ou ceux qui ont vraiment cette préoccupation de redonner du bon sens, sinon du sens, au monde. Et il y a aussi les gens qui vivent comme, j'allais dire, comme d'habitude, ou qui voudraient continuer comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Et il y a des contraintes qui s'installent au travers des normes, des réglementations, voire même des systèmes d'imposition. Et là, ça devient plus compliqué.
Oui, tout à fait. Autant on disait, il y a différents agriculteurs, mais il y a aussi différents consommateurs. Il y en a toujours pour qui l'alimentation sera le premier choix et qui mettront une grande part de leur budget. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et il y a des consommateurs peut-être qui n'ont pas le choix ou qui ne s'intéressent pas à ça et qui vont plutôt aller chercher le bas prix. On voit aujourd'hui que le contexte de l'inflation est assez compliqué pour plusieurs ménages. Et du coup, l'alimentation, c'est peut-être le critère sur lequel on va rogner un peu de notre budget. Mais c'est important de pouvoir sensibiliser, en fait, j'allais dire, au-delà des consommateurs, les citoyens, et ce, dès le plus jeune âge, sur la question de l'agriculture, la question de l'alimentation, et que ça redevienne un sujet central. Est-ce que dans les écoles, on parle du métier d'agriculteur, on parle de comment on produit, on parle d'où vient l'alimentation? Voilà, c'est peut-être ça qui va permettre aussi, après, de redonner l'envie de mieux acheter, quoi.
Alors, je vous parlais tout à l'heure de mes années de jeunesse où c'était, j'allais dire, d'une certaine manière, un moment où il fallait aller de l'avant, développer l'industrie, mais aussi l'agriculture, nourrir la population et peut-être aussi la développer. Selon les pays, tout ne se fait pas de manière synchrone. La première fois que je suis là en Chine, il y a 17 ans, j'ai retrouvé presque les mêmes problématiques que mon enfance ici en France. Et actuellement encore, la production dans ces pays a tendance à être une nécessité pour donner à manger à des populations nombreuses. En France, j'allais dire, la population est quand même un peu nombreuse, mais pas à ce niveau-là, et les perspectives de population française ne laissent pas imaginer qu'il y aura une grande augmentation de la population. Donc, entre les pays, j'allais dire, ingérables, qui essayent de s'organiser pour traiter les problèmes de société, leurs problèmes de société, et des pays qui sont déjà installés dans un mode de fonctionnement avec quelques solutions qui peuvent encore un peu fonctionner, comment justement ce différentiel, notamment dans le cadre de la mondialisation et des échanges, peut préserver nous une certaine forme de nos acquis, ou les acquis du monde agricole, et en même temps permettre à ces pays qui essayent de trouver des solutions à des problèmes majeurs de leur côté, de se développer, parce que c'est facile de dire ces pays qui sont en voie de développement, mais il suffit qu'ils ne se développent pas, et puis nous, on continuera de se développer, j'allais dire, quelque part. Donc, il y a une sorte à la fois d'injustice et de nécessité de trouver des solutions qui soient comprises et qui soient harmonieuses dans une certaine limite.
Oui, alors, je ne suis pas spécialiste du commerce agricole international, et ces questions-là, elles sont éminemment politique, c'est des questions de quelle politique agricole on veut pour notre pays, pour notre Europe, et puis à l'échelle mondiale. On sait qu'il y a l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, qui régit tous ces échanges, et qu'on est quand même dans un monde où on prône le libre-échange. Donc, qui dit libre-échange dit pas ou peu de contraintes sur comment naviguent les matières agricoles. Pour autant, et c'est ce que vous disiez, bah, on a un marché mondial avec des matières agricoles qui naviguent entre les pays suivant des contrats bilatéraux ou des accords entre plusieurs pays. Et en même temps, on a des réalités économiques de chaque pays individuellement qui sont à plusieurs vitesses. Donc, je n'ai pas la réponse de comment on fait. J'ai envie de dire, ce qu'on peut faire déjà, c'est faire les choses bien chez soi. Négocier des accords de libre-échange qui soient justes, qui soient équitables pour les deux parties. Alors là, c'est aussi facile à dire. Il y a un sujet dont on parle un peu depuis que la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. C'est le fait d'avoir une réciprocité dans les échanges. C'est de dire, bah, chez moi, on produit de telle manière. Si j'importe des produits de chez toi, je veux que tu les produises aussi de telle manière. C'est pas si simple. Des fois, on peut frôler un peu l'ingérence. Hein, de quel droit on va dire à tel producteur de produire de telle manière, mais Bon, dans ces cas-là, soit on accepte, soit on n'accepte pas.
Alors, Mme Romelin, vous avez parlé tout à l'heure de la PAC, donc on va dire que c'est l'aide de l'Europe hein, au monde agricole pour essayer de compenser les décalages, les différences, de lisser un peu les choses. Donc au départ, c'est une bonne idée. Là, il se trouve que chacun peut y trouver à redire, bien sûr. Vivre sans la PAC APAC, c'est bien ça, la politique agricole commune. Eh bien, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est difficile, surtout pour les Français, parce que la France est le premier pays bénéficiaire, même si la France fournit aussi de l'argent à l'Europe pour ça. Il y a un ratio, là ?
Alors, j'ai pas d'idée de ratio, mais ce que je peux dire, c'est que vivre sans la PAC aujourd'hui, pour les agriculteurs, c'est très compliqué, voire impossible, parce que les prix du marché ne permettent pas de rémunérer les agriculteurs correctement. Ils ne peuvent pas vivre en vendant leurs produits simplement. Ce que je sais, c'est que le premier, parce que la PAC est séparée, on va dire, en plusieurs piliers, et donc le premier pilier de la PAC, c'est celui qui donne de l'argent aux agriculteurs vraiment pour assurer leurs revenus. Donc, c'est un paiement qu'on donne à la surface. C'est un paiement qui est découplé du type de production. Voilà, plus vous avez d'hectares, plus vous avez d'argent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi très fortement décrié, puisque les petites exploitations qui sont celles qui auraient besoin le plus d'aide, sont celles qui sont les moins favorisées pour ça. Et puis, vous avez le deuxième pilier qu'on essaye un peu plus de développer au détriment un peu du premier, qui va permettre d'aider sous condition de produire de telle ou telle manière et souvent de manière plus écologique. Mais encore une fois, le problème, c'est aussi que c'est difficile d'accéder à ces aides parce que c'est très compliqué, les normes sont très compliquées, les procédures sont compliquées.
Donc j'avais une idée hier, en regardant un peu ce qui se passait dans le monde, enfin, surtout en France, et que ça criait beaucoup. En fait, j'ai vu des agriculteurs qui se plaignaient des réglementations et des contrôles qui étaient faits dans leur domaine agricole. Et moi, je me suis dit que si à chaque contrôle, on donnait à l'agriculteur 1000 euros, il dirait peut-être, revenez quand vous voulez.
Je pense effectivement que c'est une bonne idée et que ça plairait à plusieurs. Effectivement, on est dans un système où comme on met beaucoup de règles, on contrôle beaucoup et qu'il n'y a pas nécessairement d'harmonisation entre les contrôleurs de la PAC, les contrôleurs de la police de l'eau, les contrôleurs qui viennent vérifier les certifications. Donc parfois, un agriculteur, il va avoir sur sa ferme dans une année 3-4 passages de contrôle et puis de toute façon, il doit être contrôlé, si ce n'est tous les ans, tous les 2-3 ans. Donc, de ce que j'ai entendu dans les mesures proposées par le Premier ministre, il y avait un seul contrôle par an. Donc, à voir.
Après, c'est vrai que c'est gênant, ces contrôles, parce que ça demande aussi du temps, préparer les choses. Quand on annonce un contrôle, j'imagine, c'est le branle-bas de combat. Mais justement, ce temps, cette énergie dépensée, elle devrait être aussi récompensée.
Oui, tout à fait. Puis être dans le, enfin contrôler, je veux dire, c'est bien parce que il faut s'assurer qu'on ait une agriculture de qualité. Il faut vérifier que les agriculteurs font pas n'importe quoi. Dans la plupart des cas, non. Mais on voit effectivement qu'il y a des débordements, notamment dans l'élevage. C'est, je veux dire, l'accent et le zoom est souvent mis là-dessus. Mais je pense qu'il faudrait être plus dans l'échange et dans l'accompagnement. C'est pas seulement arriver sur les exploitations, vérifier la comptabilité, vérifier les papiers, mais c'est aussi en profiter pour avoir un temps d'échange avec l'agriculteur, comprendre ses problématiques et peut-être pouvoir les faire remonter.
On a été moins tatillon avec le chlordécone.
Alors, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais on sait que de toute façon, on retrouve tout ce qu'on a semé dans la nature, et puis plus on cherche, plus on trouve.
Donc, on va reparler de votre école, hein, Junia. Est-ce qu'elle a, bien sûr, des recherches en cours qui pourraient modifier, sinon révolutionner le monde agricole et la planète en général ?
Ah, c'est beaucoup, beaucoup d'ambition, beaucoup
soyons ambitieux.
De pression. Oui, alors il y a plusieurs choses, hein, parce que Junia, c'est une école d'ingénieurs donc, qui forme des ingénieurs, et notamment aux transitions d'aujourd'hui et de demain. Mais c'est aussi une école qui fait forcément de la recherche, et aussi une école qui propose de la prestation aux entreprises et aux collectivités. Donc là-dessus, on va dire qu'on touche pas mal de monde. Et puis, dans les enseignements qu'on a... On parle de durabilité, on parle de sociologie, on parle de smart farming, on fait de la recherche sur, j'en parlais, le biocontrôle, on parle d'agroécologie, on parle de changement climatique. Donc vraiment, tous ces sujets-là, on les met dans nos formations. Et puis, c'est des sujets actuels dans la recherche. On parle de bien-être animal aussi. On est impliqué dans des projets autour du bien-être animal à l'échelle européenne. Voilà.
Eh bien, merci d'être venu nous présenter votre vision globale sur ces problématiques. Et on aura le plaisir peut-être de vous accueillir dès que vous aurez un sujet passionnant encore à nous présenter.
Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.